Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Toutes nos émissions sont disponibles en balado via laplumedefeu.com.
Aube, épisode 15.
En 1905, Albert Einstein posait les principes de la relativité comme quoi tout phénomène dépend du référentiel de l'observateur.
Si je comprends bien, Philippe, dans mon présent, j'écris ces lignes. Toi, dans mon futur, tu vas les lire dans le micro.
Et vous, fidèles auditeurs, vous les entendrez dans mon futur, qui sera aussi le futur de Guillaume, mais qui se retrouvera à être dans votre présent.
Pour ceux qui écoutent sur Internet puis qui sont mêlés, pas de problème. Votre présent est inévitablement le passé de quelqu'un qui écoute en direct.
Fait que là, Guillaume, dans ce 15e épisode, Hope s'est intéressé aux différents points de vue sur l'avenir et sur l'anticipation de notre futur.
Au menu, le livre L'an 2000 selon Jules Verne, La fin du monde à travers les âges,
La cybersurveillance avec Guillaume Touzelband, une entrevue avec un auteur de science-fiction,
et L'avenir de la santé de notre planète avec Géophysiologie, médecine planétaire.
On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience.
Le mot-clé, demain. Faudrait que j'écrive le monologue. Faudrait que j'arrête de procrastiner. Faudrait que je fasse mes lectures, puis faudrait que je me fasse un lunch. Faudrait que je mette de l'argent dans mes REER. Mais d'abord, faudrait que je comprenne c'est quoi un REER. Faudrait que j'arrête de dire faudrait. C'est Val qui m'a fait remarquer ça. Je dis beaucoup faudrait. Faudrait comme dans « si je me fie à mes expériences passées, il faudrait que j'arrête de remettre à demain, puis que je fasse tout de suite ce qui peut être fait. » Faudrait comme dans « si mes prédictions pour le futur sont exactes, il faudrait que je passe tout de suite à l'action avant que le futur se change brusquement en présent, puis que « faudrait » devienne « j'aurais dû ». L'emploi du mot « faudrait » est conditionnel à l'existence d'un futur prévisible et reflète l'idée qu'il est possible d'agir aujourd'hui afin d'influencer le monde de demain. Mon problème, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à prévoir le futur, encore plus à m'imaginer l'influencer. Je pense que je suis pas tout seul. Me semble qu'il y a pas si longtemps, on était bon avec le futur. On disait « un jour, un homme va marcher sur la Lune », puis on se mettait à envoyer plein de fusées. On disait « on va arrêter la guerre du Vietnam », puis on sortait dans la rue jusqu'à temps que ça se fasse. Ou on restait couché, ça dépend pour qui. Au Québec, on s'est dit « un jour, on va avoir une population bien éduquée », puis on s'est construit un système d'éducation. En 1960, seulement 13 % des Québécois avaient une 11e année. Le taux de diplomation du secondaire s'élève maintenant à 75 %. Il y a encore quelques années, les gens pensaient à des voitures volantes. Aujourd'hui, on a à peine à s'imaginer des voitures électriques. Je suis tout simplement pas capable de m'imaginer mon futur. Tu sais, quand on te demande « où est-ce que tu le vois dans 10 ans? » Je suis comme « wow là, je sais même pas comment j'imagine le monde dans 10 ans, encore moins comment moi je veux vivre dedans. » C'est sûr que j'aimerais ça être heureux. Peut-être avoir une blonde puis des enfants, peut-être pas. J'ai pas beaucoup d'aspirations matérielles, mais j'espère avoir un jardin avec plein de fleurs. J'espère aussi que je pratique un métier qui contribue à ma société, que je mets à profit mes habiletés pour créer, pas pour détruire. Pour arriver au futur qu'on veut, on nous enseigne très jeune la fable de la cigale et de la fourmi, où l'exemple à suivre, c'est la fourmi, bien entendu. Comme quoi, faut tout de suite accumuler le plus de choses possible en prévision du futur. Mais à bien y penser, je suis pas certain que ça soit la meilleure stratégie que de suivre l'exemple de la fourmi. D'abord, la fourmi vit dans une société totalitaire où les temps libres sont abolis puis les ouvrières font que travailler toute leur vie pour engraisser la monarchie. Ensuite, la fourmi n'est qu'un insecte. Elle ne peut pas réfléchir à l'impact que cette accumulation infinie a sur son environnement fini. Et finalement, peut-être que la cigale a simplement décidé de vivre de simplicité volontaire. Que ce qu'elle aime, c'est peut-être simplement de chanter, puis d'embellir le monde. Moi, j'écris des monologues.
Repentez-vous, pauvres pêcheurs de morue. La fin du monde est proche.
L'Apocalypse, c'est de l'histoire ancienne. Depuis l'enfance de la civilisation, on nous raconte la fin du monde et on nous la prédit à chaque 1000 ans. Faut croire que nous sommes des créatures avides de sensations fortes et un tantinet pessimistes. Voyons un peu un petit bréviaire d'eschatologie ou de l'étude des fins du monde.
Nous savons tous que le monde, l'univers, naquit du Big Bang. Cette explosion titanesque qui nous propulsa tous dans l'espace-temps il y a de cela quelques milliards d'années. Mais quand le monde prendra-t-il fin?
Selon certaines mythologies, le monde aurait déjà connu plusieurs fins. C'est-à-dire que nous vivrions dans une version renouvelée de notre monde. Les Amérindiens parlent de 3 fins du monde à ce jour. Toutes ont eu lieu de la main d'un élément naturel différent. L'eau, la foudre, le feu. Nous en serions justement rendus à la purification par le feu selon nos frères et sœurs rouges.
Au tout début, il y eut une vraie méga-catastrophe qui décima la planète d'environ 90% de la vie. Il y a 65 millions d'années passées, une météorite percuta la Terre en apportant les premières versions des visions apocalyptiques.
Nous devons attendre le déluge pour avoir un souvenir d'homme de la fin du monde. Par hasard, plusieurs cultures à travers le globe partagent un souvenir de déluge. Les Africains, les Amérindiens. En continuant avec la tradition chrétienne, nous avons tous, en bon petit catholique, entendu parler de l'Apocalypse de Saint Jean qui annonce la fin des temps, où le tiers des étoiles, le tiers du soleil et le tiers de la lune s'effondreront sur la terre et les océans deviendront des brasiers de flammes infernales et qu'alors nous entendrons les trompettes du jugement dernier. Le seul problème, c'est que la date n'est pas annoncée.
Mais coup de théâtre! Un vieux manuscrit de Sir Isaac Newton, le père de la physique moderne, vient tout juste d'être découvert. Le vieux savant prédit la fin du monde pour 2060 sur la base de calculs réalisés à partir de la Bible. Restons à l'écoute, car il aura peut-être plus de chance que Nostradamus.
Les islamiques aussi prédisent une fin du monde pendant laquelle l'ange Israfil sonnera 3 coups de clairon. Le premier amènera la terreur. Le second annoncera la mort de toutes les créatures de Allah. Et le troisième coup annoncera la résurrection des créatures. Au moins, la fin est joyeuse. Les Juifs, quant à eux, avec la science de la Kabbale et leur interprétation des chiffres, prédisent la fin du monde le 10 avril 2014 à 5h, 10 minutes, 0 secondes et 9 centièmes.
Avec le calendrier grégorien, on annonce la fin du monde en général à chaque 1000 ans.
C'est au Moyen Âge que la croyance populaire se laissa le plus emporter. Imaginez la synchronicité. Les astronomes annonçaient la venue de la comète de Halley. Nous pouvons voir une représentation de cette prédiction dans la tapisserie de Bayeux, en France. Une œuvre unique de tissage médiéval qui décrit la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Et plus près de nous, il y a eu de la farce du siècle, le bog de l'an 2000.
Mais la prédiction majeure, c'est celle du calendrier Maya.
Les Mayas, dans leur grande science, ont élaboré un calendrier très complexe en accord avec les astres. Nous approchons très bientôt de la fin du grand cycle de quelques milliers d'années. 2012 était l'année fatidique, qui n'a pas fini de faire couler de l'encre sous les ponts, aussi virtuelle puisse-t-elle être. Alors, un événement d'une amplitude difficilement imaginable nous tombera dessus, comme le ciel des irréductibles Gaulois. Certains parlent d'inversion des pôles, d'autres de cataclysmes climatiques. Mais à en croire les Mayas, nous assisterons à un bouleversement cyclique qui revient nous visiter après un long voyage.
Alors, avez-vous peur? Ce n'était pas le but de l'expérience. Il est simplement intéressant d'observer l'humanitude paranoïaque qui imagine courir vers sa perte. En attendant le déluge partie 2, il serait bon de noter que la fin du monde était et sera probablement la fin d'un monde, et qu'il y aura toujours un nouveau commencement. Serons-nous de la fête? Serons-nous les élus? Dieu seul le sait, le diable sans doute, puis moi, je ne le sais pas pantoute. Maintenant que nos pendules sont à l'heure, j'espère que nous dormirons sur nos deux oreilles. Alors, joyeux nouveau monde! C'était un texte de Frère Ours, tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation de Marie-Claude Journeau.
Et de Philippe Laramie.
Gone is the glory of the far distant rumble.
Gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable. À moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Au moment d'enregistrer, un regroupement de citoyens canadiens dont plusieurs personnalités publiques dévoile le manifeste, un grand bond vers l'avant dans lequel on peut lire:
nous pourrions vivre dans un pays entièrement alimenté par des énergies réellement renouvelables et justes, traversé de réseaux de transports publics accessibles, où les emplois et autres possibilités qu'offre une telle transition sont aussi connus pour éliminer systématiquement les inégalités raciales et entre les genres.
Guillaume et moi osons espérer qu'au moment où vous entendrez notre émission, ce changement futur ait déjà commencé et que ces idées ne sont pas que du passé. À moins que vous soyez dans un coma profond depuis les 100 dernières années, ou que vous viviez dans la jungle profonde sans contact avec aucune civilisation, vous savez probablement que notre belle planète bleue est malade. Elle souffre de plusieurs maux, dont particulièrement la primatémie généralisée, le fameux fléau Homo sapiens. Depuis les années 80, le cri d'alarme est lancé. On nous avertit des conséquences, on dénonce, on proteste, mais nous continuons pour une majorité à dormir au gaz, à effet de serre. Que pouvons-nous faire? Bien sûr, chaque petit geste que nous posons dans notre quotidien est important, mais est-ce suffisant? Nous avons déjà la médecine traditionnelle, qui est en fait très moderne, les médecines naturelles, nouvel âge, qui sont en réalité les vraies médecines traditionnelles, la médecine chinoise, ayurvédique, mais pour guérir une planète, Hippocrate serait bien perplexe si nous lui demandons de soigner une patiente âgée de 3,8 milliards d'années. C'est précisément ce que la géophysiologie propose, science avant-gardiste qui pose un regard d'ensemble sur les composantes vivantes, minérales et climatiques, afin de comprendre et soigner la Terre, cette entité vivante qui nous nourrit et nous abrite. Vivante? Eh oui, vouloir soigner une planète sous-tend qu'elle est en vie. Cependant, plusieurs scientifiques refusent vigoureusement de reconnaître la possibilité que notre mère Terre puisse jouir du statut d'être vivant. Le contexte de vie, bien que considéré comme simple, se voit donner différentes définitions par autant de spécialistes. Le physicien, le biochimiste, le néo-darwinien, tous définissent différemment la vie. Alors, comment prouver que la Terre est vivante? C'est ce que le chercheur savant philosophe anglais James Lovelock s'entête à expliquer depuis le début des années 70. Sa théorie, celle de Gaïa, démontre que la Terre est un organisme vivant. Un super-organisme qui, à l'aide d'organes, s'autorégularise pour maintenir ses fonctions vitales constantes, conditions favorables au maintien de la vie. À maintes reprises, les scientifiques ont tenté de dénigrer la théorie Gaïa. Ils refusent d'admettre qu'une énorme masse de matière inorganique et minérale, avec une très petite couche de vie organique, puisse être vivante. Ce n'est qu'en voyant la Terre de l'espace que l'on a pu réaliser comment elle est spéciale et différente de ses sœurs, Vénus et Mars. Elle est la seule à posséder une atmosphère et autant d'eau, élément essentiel à la vie. Les écosystèmes, les organes de la Terre, peuvent aussi avoir une similitude avec d'autres organismes vivants. L'air, l'atmosphère, pourrait être comparé aux poumons. Mais l'atmosphère joue différents rôles en relation avec d'autres facteurs naturels et même avec des organismes vivants. Elle contribue énormément à la régulation de la température et du taux d'oxygène. Curieusement, le taux d'O2 dans l'air se maintient à 21% depuis des centaines de millions d'années. En dessous de 15%, rien ne brûle. Et au-dessus de 25%, la combustion est spontanée et les feux sont violents. Il fut un temps où l'oxygène était presque absent de l'atmosphère, celui-ci étant dominé par le méthane. L'apparition des êtres photosynthétiseurs renversa tout ça et permit à l'oxygène de croître à son niveau actuel. Si la vie venait à disparaître de la surface du globe, toutes les réactions biochimiques s'épuiseraient. Des centaines de composés gazeux disparaîtraient de l'atmosphère et la Terre deviendrait un lieu aride et inhospitalier. Les océans, à leur tour, peuvent être associés au système sanguin. Ils aident à la circulation de l'énergie du soleil grâce aux courants marins des tropiques vers le nord. Ils permettent la migration vers la surface d'éléments nutritifs tels le phosphore et l'azote. Le taux de salinité est également une constante précise. Le sel dans la mer demeure sensiblement à la même proportion et n'excède jamais la limite critique dangereuse pour la vie. Le sol, les rochers, formant la presque totalité de la planète, peut être comparé à un squelette, à la structure osseuse de Gaïa. Il constitue une réserve quasi infinie de minéraux qui, à l'aide des mouvements tectoniques et de l'activité volcanique, en grande relation avec les courants marins, peuvent circuler de l'intérieur de la Terre vers la surface. La température de Gaïa, bien qu'il ne s'agisse pas d'un organe, est un signe vital crucial à son existence. Enfin, il me tarde de vous parler de ces petites créatures qui sont les plus nombreuses à habiter cette planète bleue. Elles constituent en elles-mêmes des organes de Gaïa. Détrompez-vous, humanité égocentrique, la Terre pourrait facilement vivre sans les mammifères et sans les humains, mais elle serait vouée à une mort certaine sans les milliards de millions de petites créatures qui travaillent sans trêve pour maintenir les conditions viables de la Terre. Nous avons, nous-mêmes, une multitude de micro-organismes dans notre corps, qui nous aident à vivre en santé, dans notre intestin, notre estomac. Pour Gaïa, c'est sensiblement similaire. Ces êtres microscopiques œuvrent au bon fonctionnement de tous les organes de notre Terre.
Les trois groupes bactériens sont les photosynthétiseurs, les consommateurs et les fermenteurs. Ils constituent la partie la plus puissante de Gaïa. Chacun a son rôle primordial dans l'autorégulation de la planète. Si nous prenons un échantillon de Terre, nous y trouverons des milliards de micro-organismes par centimètre cube qui accélèrent et facilitent l'érosion du sol. Ces petites créatures décomposent la matière organique pour libérer à nouveau les substances nutritives de la vie. Sans la vie, il n'y aurait pas de sol, seulement du régolithe, des débris rocheux qui couvrent les planètes mortes. Toutes les roches sédimentaires sont façonnées par les organismes vivants. Maintenant que nous avons une assez bonne vue d'ensemble de notre patiente, il nous reste à faire un diagnostic. Comment soigner la Terre? Avec quelle méthode? Par où commencer? Un géophysiologue doit, pour mieux comprendre la Terre, la considérer dans son ensemble. Une étude approfondie de notre planète par un médecin planétaire dévoilerait rapidement quelques pathologies. Tout d'abord, Gaïa souffre d'une indigestion acide. Les plus acides, causés par les déchets des automobiles, l'industrialisation et l'agriculture abusive. Ce n'est pas encore fatal, mais ce n'est pas bon signe pour la vie et cela pourrait même cacher une autre maladie. L'anosonémie est aussi en tête de liste, qui veut dire l'appauvrissement de la couche d'ozone. Ce n'est pas non plus une menace sérieuse pour l'instant, mais pour un géophysiologue, la présence de chlorofluorocarbone, du CFC, dans l'atmosphère terrestre serait un signe de trouble de l'organisme planétaire. Notons que ce composé ne se retrouve pas dans l'atmosphère de façon naturelle. Voyons ensuite l'exfoliation ou destruction de l'épiderme. Peut-être la plus dangereuse des maladies de Gaïa. La destruction des forêts et des sols naturels par l'agriculture frôle déjà les 70%. Pour les humains, la perte de 70% de la peau engendre la mort. Les arbres, en produisant de l'humidité, transpirent pour refroidir la terre. En éliminant les forêts, la température augmente et le sol se transforme en désert. La forêt et la pluie fonctionnent comme un seul système, l'un ne va pas sans l'autre. La fièvre récurrente ou le réchauffement planétaire est sans doute un des sujets les plus chauds de la dernière décennie. Les gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, la vapeur d'eau et les CFC emprisonnent les rayons infrarouges du soleil et contribuent au réchauffement considérable de la température terrestre. Bien qu'en temps normal, ce phénomène ne soit pas trop dramatique, de nos jours, nous coupons beaucoup trop de forêts, qui sont les régulateurs de CO2, et les toxines humaines, en constante croissance, ajoutent un stress important. Devant ce phénomène, les climatologues sont perplexes et ne savent pas trop bien comment cela va finir. Chose certaine, les glaces nordiques diminuent et le niveau d'eau de l'océan augmente sensiblement. Lorsqu'un système homéostatique autorégulé arrive aux limites de sa capacité de régulation, il devient instable et peut osciller entre deux extrémités. Gaïa pourrait réagir à cette fièvre par un refroidissement drastique de son atmosphère causant une nouvelle ère glaciaire. Pour en finir avec le bilan de santé de notre planète, nous en arrivons à la conclusion que, avant tout, le plus gros problème de Gaïa est le fléau humain. Nous, supposément l'aboutissement de l'évolution et de l'intelligence, sommes en train d'anéantir le système immunitaire de notre Terre, comme des parasites suceurs de sang, un VIH tueur de planète. Toute maladie, aussi bénigne soit-elle, peut entraîner la mort si elle n'est pas traitée. Il y a quatre issues possibles à la maladie. La destruction des organismes pathogènes envahisseurs, l'infection chronique, la destruction de l'hôte et la symbiose. Une association mutuellement avantageuse pour tous. À mon avis, nous devrions assez rapidement en arriver à la symbiose avant que Gaïa ne secoue les puces de sur son dos. Les trois défis majeurs de notre époque que nous devons au plus tôt relever sont la déforestation, l'agriculture et les automobiles aux énergies fossiles. Malheureusement, notre géophysiologue n'a aucune pilule miracle à prescrire. Justement, comment le géophysiologue peut-il soigner Gaïa et le doit-il? Le fait est que la physiologie de Gaïa est encore mystérieuse et complexe. Vouloir intervenir à cette échelle est risqué, car nous ne connaissons pas les répercussions de nos actes. Nous pourrions tenter d'élever certains micro-organismes clés, comme certains phytoplanctons utiles au pompage du CO2, ou bien créer des noyaux de condensation à vapeur pour la formation de nuages qui aideraient à régulariser la température. Mais encore une fois, nous ignorons l'impact que ces interventions auraient sur la Terre. La science, telle qu'elle est aujourd'hui, n'est pas en mesure de bien cerner la vision d'ensemble de la planète. Elle devra approfondir énormément son étude des interrelations entre le vivant et le non-vivant. Mais avant tout, l'humain, en tant que parasite, devra rapidement changer son aérosol d'épaule afin d'intégrer cette symbiose chèrement attendue. Il faut rapidement arrêter la coupe sauvage des arbres, changer l'industrie automobile pour une technologie verte et développer une agriculture locale et saine pour Gaïa. Peut-être verrons-nous dans quelques décennies à notre bureau local d'emploi l'annonce suivante. Géophysiologue, médecin planétaire est demandé dans une galaxie près de chez vous. La planète a besoin de vous. En attendant, propageons la conscience et passons à l'acte. Une humanité consciente pour une planète en santé.
Un texte de Frère Ours, tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation, Philippe Laramie.
Combien de personnes tentent, en vain, de découvrir l'avenir et d'anticiper les gestes d'un univers immensément riche. Riche au point de rendre aveugle l'homme face à la trame du temps. Nous sommes de petits êtres récompensés petitement, dans les petits renforts pompeux de civilisations toujours prêtes à se perdre. L'individu, dans tout cela, apprend peu à peu à délaisser les horoscopes pour finalement se laisser guider par l'instinct gagné à force d'échecs et de désillusions. Une moite lenteur d'esprit occulte divinement tous ses espoirs. Et, écrasé par le destin, il s'amenuise pour prendre la taille d'une excuse. Une excuse n'existe pas. Elle est un peu là, un peu ailleurs, comme gênée d'exister aux yeux des autres, aux yeux du monde. Je ne m'opposerai pas à une telle pensée. Il est vrai que l'univers écrase dans sa splendeur immuable le talent éphémère de l'homme, mais j'ajouterai néanmoins que l'homme a le choix d'en explorer les splendeurs jusqu'aux limites de sa perception. L'avenir ? Anticiper ce que l'homme pourrait être ou ce que l'individu sera, tout cela doit se cacher dans les recoins les plus sombres et odieux du monde. Est-il censé de penser ainsi la création divine ? Tout est caché selon moi et il suffit de le trouver. Battre les cartes, lire le ciel et ses ragoûts futuristes d'aruspice encrassés ne sont que des odieux mensonges sur la route de celui, digne, qui cherchera le réel avenir et décidera d'accepter la vision brute de son futur. Quiconque est passé par le filtre de la légende et du mythe saura que l'on est souvent déçu ou berné lorsqu'un être d'au-delà de nos sens nous annonce en fanfare les gestes et les chants qui parleront de nous. On se croit immortel et l'on plonge au fond du gouffre. La question de lire l'avenir n'est pas intéressante en soi. Au contraire, elle est bestiale et à peine humaine. Elle reflète des peurs immémoriales. La question de la réponse est quant à elle bien plus pertinente. Le petit homme demande à l'univers son avenir et ressort encore plus amoindri. Car la parole de l'univers l'écrase et le broie. Il aurait mieux fait de chercher en lui-même la réponse plus humble de son propre devin. « Qui serais-je » demande-t-il. « Sans aucun doute, toi-même, et tout ce que tu auras bâti au-delà de tes craintes. »
Monsieur Wilson, notre maire veut mettre une nouvelle horloge à la place de l'ancienne. Il y a 30 ans, la foudre s'est abattue sur ce clocher. Depuis cette époque, l'horloge est arrêtée. Et les amis des monuments de Hill Valley souhaitent que ce fleuron de notre patrimoine soit maintenu dans son état actuel. C'est notre héritage culturel qui est en
tenez,
jeu.
Tenez, madame, c'est tout ce que j'ai.
Merci. N'oubliez pas votre contrat.
Très bien.
Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu la capsule « La fin du monde à travers les âges »,
la géophysiologie, médecine planétaire, l'apostrophe de M. Tubercil,
et nous avons entendu Mickey 3D avec la pièce « Respire ».
Si vous avez manqué la première partie, toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com.
À venir dans la deuxième partie, une entrevue avec Abarcal, auteur de science-fiction.
La surveillance et les données personnelles en 2015 avec Guillaume Touzelband de l'émission Vie privée 20.15.
L'an 2000 selon Jules Verne.
Et pour l'instant, voici les nouvelles du front.
Lorsque les auteurs de romans d'anticipation se penchent sur notre futur, ils nous soulignent souvent à gros traits les dangers qui nous guettent. Catastrophe climatique qui bouleverse notre mode de vie, gouvernement autoritaire qui surveille et qui brime notre liberté d'expression, innovation technologique qui échappe à notre contrôle, etc., etc. Si ces histoires sont des récits de fiction, les dangers qu'ils exposent sont quant à eux bien réels. Heureusement, des citoyens et des acteurs de la société civile tentent par tous les moyens de nous protéger de ce futur terrifiant. Ici Guillaume Lambe avec les Nouvelles du Front. Dans un article intitulé « Intelligence artificielle, danger réel » publié en 2015, le journal Libération abordait d'emblée les problèmes de l'intelligence artificielle et entre autres les armes de guerre autonomes, ou ce qu'on pourrait appeler les robots tueurs. Il faut savoir que déjà aujourd'hui, la zone démilitarisée qui sépare la Corée du Sud et la Corée du Nord est gardée par des robots équipés de capteurs et de caméras, mais aussi de mitrailleuses et de lance-grenades. Ce sont les robots qui détectent leurs cibles, même si pour l'instant, les opérateurs doivent toujours autoriser le dit robot à faire feu. Les avancées scientifiques ne permettent pas encore la création des robots complètement autonomes, mais nous n'en sommes pas si loin. C'est ce qui a poussé 2921 chercheurs en intelligence artificielle et robotique à publier une lettre ouverte demandant l'interdiction préventive des armes autonomes offensives sans contrôle significatif d'un être humain. Cette lettre a été endossée par plus de 16 936 personnalités publiques, dont Stephen Hawking, Elon Musk et Pierre Poirier de l'Université du Québec à Montréal. Nombre de scientifiques s'inquiètent aujourd'hui du futur de l'humanité. Selon Nick Bostrom, directeur de l'Institut du futur de l'humanité, qui dépend de l'Université d'Oxford, dont les propos sont rapportés par le magazine économique L'Expansion, les programmeurs qui programment les intelligences artificielles peuvent échouer à anticiper l'ensemble des façons possibles d'atteindre le but qu'ils fixent à la machine. Par exemple, un robot à qui on aurait assigné la tâche de faire sourire les gens et qui, au lieu de raconter des histoires drôles, entreprendrait de leur paralyser les muscles du visage parce que personne n'aurait songé à lui interdire de le faire. Simple question d'interprétation. Espérons que nous saurons interpréter le sens des propos de M. Bostrom. Espérons en effet, parce que nos démocraties paraissent bien fragiles en ce début de 21e siècle. Certaines viennent à peine de naître, à la suite de ce qu'on a appelé le printemps arabe, et peinent toujours à se donner de bases solides. D'autres, qui ont pourtant plusieurs décennies derrière la cravate, érigent des murs à leurs frontières, contrôlent de plus en plus le discours des journalistes et des scientifiques, et répriment les manifestations pacifiques. En Tunisie, l'organisation Al-Basala protège les acquis de la révolution de 2011 et œuvre à défendre les droits fondamentaux des Tunisiens. De son côté, la Ligue des droits et libertés décrivait dans son rapport sur l'état des droits humains de 2013 l'érosion des droits civils au Canada et au Québec. Heureusement, des instances comme ces deux organisations existent et contribuent à la protection de nos acquis démocratiques. Mais qui nous protégera de l'aveuglement de nos gouvernements face à l'enjeu majeur de notre époque, la destruction de notre environnement? Déjà en 1972, le Club de Rome publiait la première édition de son rapport « Les limites de la croissance ». Ce dernier donnait 60 ans, soit jusqu'en 2030, au système économique mondial pour s'effondrer, confronté à la diminution des ressources et à la dégradation de notre environnement. Le rapport essuiera plusieurs critiques qui le taxaient d'exagération dans ses prévisions. Une version actualisée du rapport publiée en 2012 démontre pourtant la validité des prédictions faites par le Club en 1972. L'organisme Climate Action Tracker rappelait aussi que le monde est toujours sur la trajectoire d'une hausse de 2,9 à 3,1 degrés d'ici 2100. Le climat s'est d'ailleurs réchauffé d'au moins 1 degré depuis le début de l'ère industrielle. Pourtant, le consensus scientifique établit la limite à ne pas franchir à 2 degrés. Au-delà de cette limite, selon les scientifiques, les conséquences seraient imprévisibles et irréversibles. La conférence de Paris sur le climat en décembre 2015 a pour objectif de sceller un accord universel pour limiter la hausse de la température mondiale à 2 degrés. Lors du Sommet des consciences, en juillet de cette année, une quarantaine de personnalités, dignitaires religieux, chefs d'État, scientifiques, prix Nobel de la paix et artistes ont appelé l'humanité à prendre action dès maintenant. D'ailleurs, plusieurs n'ont pas attendu cet énième avertissement pour agir et travaillent déjà à trouver des solutions. Plusieurs hommes et femmes et organisations de la société civile ont démontré une grande ténacité dans les dernières années afin de défendre notre environnement et notre démocratie. Avec un peu de chance, et surtout avec l'implication de tous, peut-être réussirons-nous à prévenir l'apparition des robots tueurs. Dans tous les cas, il faudra être vigilant, car comme il disait dans le film, « I'll be back ». Pour Aube, c'était Guillaume Lambe avec des nouvelles du front.
Le futur et l'anticipation peuvent prendre des formes différentes suivant l'imaginaire d'un poète, d'un cinéaste, d'un romancier ou d'un artiste peintre. Et dans la tête d'un fonctionnaire bien tranquille et féru de science-fiction, qu'est-ce qui s'y passe? Notre invité aujourd'hui, c'est Abarkal, fonctionnaire tranquille et raisonnable, passionné de science-fiction, de vaisseaux spatiaux, de littérature fantastique et futuriste. Agile de ses mains autant que de ses neurones, Annie a écrit il y a quelques années un roman de science-fiction intitulé « Dans la chaleur de l'éternité ».
Je me souviens des débuts d'autres mondes, des débuts de votre monde, mais aussi de la fin de bien des mondes. Bien au-delà de toute mémoire, je me souviens. Ces mots étranges résonnent encore dans mon esprit. Moi non plus, je n'ai rien oublié. Pourrais-je oublier? Pourrais-je oublier cette peur, cette fascination, cette soif de savoir, cette soif de percevoir? Pourrais-je oublier ce qu'il m'a montré, ce qu'il m'a donné, ce qu'il m'a pris. Les faits que je vais vous conter sont-ils ses souvenirs ou mes souvenirs? Je suis même plus certain d'être moi-même.
Bonjour Annie.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, quelques questions vont diriger un peu notre capsule. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais me faire un petit résumé de ton roman?
Alors, c'est un roman qui parle de la première mission humaine sur Mars. Cette mission n'est pas ordinaire. Aucun va revenir de Mars. Ils vont tous disparaître là-bas. Mais ce n'est pas une tragédie. Pourquoi j'ai fait ce roman? J'ai fait d'abord pour mon plaisir. Hein. Je voulais une histoire qui sorte de l'ordinaire. Je ne voulais pas une voix off, le sort éternel omnipotent qui raconte toute l'histoire derrière, et les personnages ne sont que des objets dans l'image. Je voulais que le lecteur vive l'histoire.
Et puisse s'identifier, puisque tes personnages sont aussi des personnages très humains et très, très actuels, c'est finalement.
Voilà.
On n'a pas de super-héros.
Je voulais que ce ne soit pas des super-héros, 2 mètres de haut, 200 kilos de muscles, non, que ce soit des personnes ordinaires plongées dans une histoire extraordinaire.
D'où te vient cette fascination fertile pour la science-fiction? Qu'est-ce que tu y trouves de passionnant?
Cela va peut-être te faire rire, mais depuis ma petite enfance, j'ai l'impression d'être un voyageur du temps égaré dans une époque barbare. Et la science-fiction me donne l'impression de réintégrer mon époque. C'est une sensation que j'ai eue tout petit, même en commençant à marcher. Cette sensation, elle est tenace, elle est au fond de moi. Et je crois que je l'aurai toujours.
Au niveau des informations, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails de technosciences, scientifiques, des détails très techniques. Où est-ce que tu es allé chercher toutes ces informations?
C'est une connaissance éclectique, parce que tout ce qui concerne l'espace, le futur, c'est un peu ma passion. Avant Internet, je lisais beaucoup. Et depuis qu'Internet existe, je me promène beaucoup sur les sites francophones, anglophones, sur le sujet, beaucoup sur le site de la NASA, et tout ce qui est futurologie. Et je regarde aussi des émissions scientifiques sur, je ne sais pas si on peut le citer, sur RMC Découverte, sur tout ce qui concerne l'espace et le monde de demain. Ça me donne l'impression de me projeter dans une réalité qui m'interdit.
Dans ton roman, on a parlé des détails scientifiques, de tout ce qui concerne les technosciences, mais il y a un volet quand même assez spirituel en fait dans ce roman. Est-ce que tu peux m'en parler rapidement?
Même si il m'a fallu presque 20 ans pour rédiger cette histoire, j'avais l'impression qu'une muse me dictait les mots. Alors tu vas me dire, encore un illuminé qui a été contacté? Non. C'est une petite sensation, une petite voix à peine perceptible qui me... Voilà, qui a dirigé mon texte. Et puis, j'ai voulu aussi y inclure mon émotionnel. C'est pour ça que les personnages sont partis d'un début assez standard pour finalement vivre l'histoire. Donc, je voulais y coller un peu mon histoire. Parce qu'il est clair que lorsque l'on écrit, il faut bien avoir une base d'écriture. Et cette base, c'est généralement autobiographique.
Donc est-ce que pour toi, chacun des personnages est comme un peu une facette de toi que tu as voulu élargir et étoffer?
En quelque sorte, on peut le dire. Je peux le dire. Une facette de moi ou une facette que j'aurais aimé être, à la fois masculin et féminin. Lorsqu'une femme parle, je me mets dans la peau de cette femme, avec ses ressentis, ses émotions. Et les émotions des femmes sont différentes des émotions des hommes. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. J'ai essayé d'être au plus proche de la réalité émotionnelle de chaque personnage. Cette histoire n'est pas liée à l'année 2059 du départ du vaisseau. Ça pourrait être aujourd'hui, ça pourrait être au Moyen-Âge, ça pourrait être dans 1000 ans. C'est pas lié. J'ai l'impression que la science-fiction, cette histoire de science-fiction, me sert de support pour les personnages, pour avoir une vie. Dans cette histoire, il faut les placer dans un cadre. Et c'est le cadre qui m'était le plus approprié.
Je me revois, il y a 3 ans, devant le télégramme, m'enjoignant de rejoindre le centre de sélection des astronautes de la NASA, n'en croyant pas mes yeux. Je revois les visages de mes 12 compagnons de voyage, lorsque nous nous sommes retrouvés tous ensemble pour la première fois. Certains plutôt bavards, d'autres n'osant articuler un quelconque mot, mais tous avec la même étincelle dans le regard. Je revois Carmine Berthier, l'astrophysicienne française d'une rigueur à toute épreuve et toujours prête à rendre le moindre service.
Je revois le regard pénétrant et amusé de Natalia Korlakov, notre biologiste russe, un sourire envoûtant et aux yeux d'un vert si particulier qu'il ne pouvait laisser quelconque indifférent. Je revois mon étonnement lors du premier contact avec notre médecin et psychologue, Carol Hope, une Américaine du fin fond du Colorado, qui me prit le pouls alors que je lui tendais la main. Je revois ma certitude lorsque nos regards se sont croisés pour la première fois quant à la fiabilité de mon second et copilote, le capitaine Manuel Rodriguez, un Mexicain au catholicisme presque caricatural de fanatisme. Je revois Hans Müller, un brillant biochimiste munichois chargé avec Natalia de vérifier la compatibilité de nos organismes avec ce que nous pourrions pousser dans le sol de la serre que nous devions aménager sur Mars.
Ce roman qui s'appelle donc « Dans la chaleur de l'éternité », écrit par Abarcal, se trouvera sur Amazon pour ceux qui veulent y jeter un œil. Eh bien, merci beaucoup Abarcal pour le moment que tu nous as consacré depuis la France avec le décalage horaire et bonne chance pour le deuxième roman.
Au début de l'été, je me suis fait confier la réalisation et l'animation d'une série de 12 émissions d'une heure portant sur les nouveautés en protection de la vie privée et des renseignements personnels. Presque arrivé au bout du contrat, il y a une partie de moi qui se sent choyée d'avoir pris conscience du phénomène, puis il y a une partie de moi qui aurait préféré rester dans l'ignorance. On est de plus en plus surveillés, on le sait. On collecte de plus en plus de nos renseignements personnels, on le sait. Pourtant, on fait presque rien. On pose trop peu de questions. On assume qu'on peut rien y faire. On assume que George Orwell avait raison, puis que 2015, c'est 1984. Quand on publie notre souper sur Instagram puis qu'on pose en bikini sur Facebook, c'est-tu encore pertinent aujourd'hui de parler de vie privée? Si l'industrie de la collecte, du partage et du stockage de nos données génère des milliards de dollars, si l'État et les grandes entreprises s'intéressent autant à qui on est, à comment on se comporte et à quelles sont nos habitudes, comment ça se fait que nous, les principaux intéressés, on s'y intéresse pas plus que ça? Le problème, c'est qu'on n'a pas encore vraiment assimilé qu'Internet, le cyberespace, c'est pas un espace à part, c'est une extension de qui on est. C'est une fenêtre, chez nous, accessible au monde entier. Diriez-vous en face de votre mère ou de votre boss tout ce que vous publiez sur votre wall? Évidemment pas. Et pourtant, on laisse des traces en ligne pensant que c'est moins grave qu'en personne. Pourtant, il y a plein d'exemples concrets qui démontrent que plus souvent qu'autrement, c'est retenu contre nous. Cyberintimidation, revenge porn, accès à l'emploi, accès à la politique, cyberpédophilie. Saviez-vous que des photos de votre bébé prises avec votre smartphone contiennent des données de géolocalisation? Si ça prend d'autres exemples concrets, un pro m'a mentionné que si vous magasinez un billet d'avion et que vous utilisez un Mac plutôt qu'un PC, le site web devine que vous avez davantage de moyens et ainsi les prix sont plus chers, car vous êtes casé dans un profil de consommateur. L'industrie de l'assurance aussi s'intéresse tout particulièrement à vos renseignements personnels, de vos habitudes de conduite aux renseignements les plus personnels qui soient votre corps et votre état de santé. Évidemment qu'on lit pas les politiques de confidentialité, c'est pas de la paresse, c'est juste pas lisible. Des experts en protection de la vie privée eux-mêmes s'y perdent, mais en acceptant presque tout, on donne notre consentement à presque tout. Et on perd la propriété des clics qu'on fait, qui ont une influence, qui influencent le profil, moins exact qu'on pourrait le croire, mais quand même, qui est fait de nous. Les partis politiques définissent ainsi l'électeur type, code postal par code postal, puis adaptent leur message en fonction de ses intérêts. Ils déterminent aussi quelles circonscriptions valent pas la peine d'être visitées parce que c'est peine perdue. Ce profilage, cette surveillance, au fond, s'amène à beaucoup de discrimination. On affirme pourtant que c'est pour des raisons de sécurité, aux frontières, à l'aéroport, dans les dossiers de police, en pré-embauche, dans les commerces, mais ça pénalise davantage des groupes de gens qui sont déjà bien assez marginalisés comme ça. Ça punit aussi la dissidence en empêchant l'accès au pays d'activistes reconnus comme étant contre les politiques du gouvernement actuel. Les récentes lois C-13 et C-51, respectivement contre la cyberintimidation et contre le terrorisme, n'ont pas que du mauvais. Mais pourquoi autant accroître le pouvoir de surveillance de l'État? Pourquoi de moins en moins de transparence et d'imputabilité? Big Brother isn't only watching you. Big Brother knows you or thinks he knows you and tries to predict what your next move is going to be. George Orwell, dans le fond, il était optimiste. 1984, c'était totalitaire, mais c'était clair et direct. Pas de quoi d'insidieux comme ce dans quoi on semble être embarqué aujourd'hui. Vous faites pas le saut, vous, chaque fois que vous recevez un courriel de Google qui souligne le fait que vous avez ouvert votre compte Gmail d'un endroit différent d'habitude? Bref, quelles informations sont collectées à notre sujet? Qui y a accès? Combien de temps sont-elles stockées? Comment sont-elles sécurisées? Car dès qu'il y a connexion Internet, c'est piratable. Des hackers, embauchés par Jeep, ont réussi à faire freiner et changer de direction, à distance, une voiture intelligente. Hello Barbie, la poupée intelligente, enregistre les conversations qu'aura vos enfants avec elle afin de constamment améliorer son produit. Qu'est-ce qui sera conservé? Qui pourra y accéder? Rien n'est moins clair. Les publicitaires s'intéressent à coups de publi-jeu aux données d'enfants de plus en plus jeunes parce qu'ils sont les consommateurs de demain. Et si vous pensez que ça ne vous concerne pas, posez donc la question à Siri. C'est le prix à payer pour de plus en plus de fonctionnalités en apparence gratuites. Chaque clic est un compromis, chaque clic, au fond, est un acte politique. Réaliser la série d'émissions Vie privée 20.15, c'est comme ça que ça s'appelle, m'a franchement rendu pessimiste. Mais malgré tout ça, je me déconnecterai pas pour autant. Après m'avoir écouté, vous le ferez pas non plus. Vous vous mettrez pas à lire et à essayer de comprendre toutes les politiques de confidentialité des applications que vous utilisez. Mais de grâce, googlez-vous donc et allez mettre à jour vos paramètres sur Facebook. Et surtout, prenez le temps de définir quelles sont les limites de votre vie privée, car ça demeure un choix bien personnel, un choix privé, justement.
Merci à Guillaume de s'être prêté au jeu du Mexican Standoff, où nous laissons la place à d'autres animateurs et réalisateurs qui proposent toutes sortes de visions du monde sur les ondes de nos radios communautaires. Guillaume Touzelband réalise et anime la série d'émissions Vie privée 20.15, qui porte sur les nouveautés de protection de la vie privée et des renseignements personnels. Pour en savoir plus, visitez le cbl1015.com/vie-privée-20.15. Mais n'oubliez pas d'effacer vos cookies après.
Chantonnait dans la jungle maudite. Nous marchions déjà depuis 3 jours et 3 nuits. Dans le silence épais, protégé des lianes, nos pas nous suivaient et moi je la précédais. Encore une fois, dit-elle, quand le soleil tombait, redis-moi comment, quel endroit nous irons, nous allons au dôme. Et là où nous allons, ne se trouve que des gens qui ont tout espéré. Le dôme est immense au cœur de la forêt, et on dit qu'il est clair à des milles à la ronde, à des milles à la ronde. Les oiseaux chantonnaient dans la jungle maudite. Nous marchions lentement vers le dôme au sans nom. Elle suivait patiemment le chemin mal dessiné. Et le soir se couchait et elle recommençait. Dis-moi, tous ces gens qui construisirent le dôme, pourquoi n'arrivèrent-ils qu'à cette seule solution? La question était bonne, alors je réfléchis, référant aux échos mille fois entendus. Il y a 20 ans, je crois, naquit le premier fou, puis plus tard eut lieu l'épidémie. Chaque ville posséda 2 ou 3 de ces fous, mais personne au début ne savait qu'ils étaient fous. Ils n'étaient anormaux que de par la faculté qu'ils avaient de ne jamais être intéressés plus longtemps qu'une minute à quoi que ce soit. Quelques-uns se tuèrent et les autres comprirent qu'il fallait rechercher un endroit où aller. C'est ainsi qu'ils bâtirent un grand dôme au sans nom. Et on dit qu'il est clair à 2000 à la ronde, à 2000 à la ronde. Pendant que nous marchions vers la mort certaine, je commençais à croire à la fable du dôme. Quand un jour au lever, je fus saisi d'angoisse, une sorte de vertige, une fébrilité. J'entendis la musique et je vis la lumière. Une immense boule en verre s'élevait devant nous. À l'intérieur, les ombres de mes inventions, jeunes hommes et jeunes filles répétées en centaines, 2000 répliques parfaites de moi et de elle. rassemblés doucement dans la sphère en cristal, buvaient nonchalamment des verres fluorescents. La musique martelait à 100 lieues à la ronde, et l'éclairage créait les oiseaux albinos, dont les plus surprenants étaient les centoucans, rouges et jaunes au milieu de la nuit stroboscope. Nous allions vers le dôme, et là où nous allions ne se trouvent que les gens qui ont tout espéré. Le dôme est immense au cœur de la forêt, et on dit qu'il éclaire à des mille à la ronde. Au-dedans rassemblés les désespérés du temps, les perdus qui recherchent le paradis. On m'a dit qu'ils étaient assez jeunes, et pourtant semble-t-il qu'ils ne font que parler lentement. À des mille à la ronde, à des mille à la ronde.
Hey Phil, savais-tu que la présidente du Québec libre et reine d'Angleterre, Mme Judith Moussaoui-Tremblay, va annoncer en septembre 2032 que le Québec est officiellement sorti du pétrole?
Guillaume, arrête de jouer avec la machine à voyage dans le temps. Tu vas la briser, première des choses, puis les auditeurs sauront plus en quelle année on est. T'as pas un monologue à écrire, toi?
Ah, ok, ok.
Jules Verne n'a cessé d'interroger et d'imaginer le futur. Il s'est constamment projeté dans l'avenir et a tenté d'entrevoir le fulgurant essor des sciences et des techniques. Avec humour, sarcasme ou conviction, il a acquis les espaces, perfectionné l'automobile, parcouru les profondeurs des mers et volé dans les airs. Selon lui, les années 2000 seraient emplies de machines bizarres, engins transformant en quelques instants des cochons bien vivants en jambon fumé. Navires à la fois amphibies et aériens, avions sans pilote, obus spatiaux. Il entrevoit aussi un avenir où l'image serait omniprésente. Image virtuelle, image transmise par téléphone ou diffusée par la photographie intensive. Et puis, il semble doué parfois d'une prémonition étonnante. « Mon électricité n'est pas celle de tout le monde », dit le capitaine Nemo pour expliquer le fonctionnement de son Nautilus. Et l'on pense immanquablement à l'énergie nucléaire qui permet l'autonomie des sous-marins actuels. Dans Autour de la Lune, les angoisses de Michel Ardan et ses compagnons perdus autour de notre satellite évoquent les mésaventures d'Apollo 13, dont les astronautes en perdition sont revenus sur Terre dans le léger module prévu pour le débarquement lunaire. Le terrible explosif inventé par Thomas Rock dans Face au drapeau serait-il une bombe atomique? L'étrange courant neutre rectiligne de Zéphyrin et Xyrdal dans La chasse aux météores ne suggère-t-il pas la puissance du rayon laser et les fruits monstrueux nés des expériences d'un savant fou dans Une fantaisie du Dr. Ox sont-ils une préfiguration des aliments transgéniques qui inquiètent tant notre aube du troisième millénaire? Pourtant, l'auteur lui-même s'est toujours refusé à revêtir l'habit de prophète de l'avenir. Il a sans cesse déclaré que ses innovations fictives s'appuyaient simplement sur une solide documentation scientifique. Sans rien inventer, il a voulu se borner à développer des découvertes prometteuses. Mais il a dit aussi « Ce que j'invente restera toujours au-dessous de la vérité, parce qu'il viendra un moment où les créations de la science dépasseront celles de l'imagination. » Tout cela permettra à Jacques Sadoul, l'historien de la science-fiction, de voir en Jules Verne l'un des trois pères de la science-fiction, avec Edgar Poe et H.G. Wells. L'empreinte de Poe sur un ouvrage comme « 5 semaines en ballon » est évidente. Quant à Wells, l'auteur lui vouait une grande admiration tout en déplorant son manque de rigueur scientifique. Mais sur le plan de l'anticipation futuriste, Jules Verne subit une influence plus déterminante et plus feutrée, celle de son fils. On verra dans les commentaires les morceaux choisis, le nom de Michel Verne revenir plusieurs fois, car c'est sans doute en partie incité par le jeune homme, et même sous sa plume remaniant certains romans, que l'auteur des Voyages extraordinaires a exprimé le plus clairement une vision de l'an 2000. L'an 2000, vu d'hier, n'est pas tout à fait notre monde, mais on s'y reconnaît souvent, comme dans un miroir déformant, et l'image que nous renvoie Jules Verne se fait multiple. Absurde, cocasse, réaliste, et parfois effrayante.
C'était l'introduction de L'an 2000 selon Jules Verne, morceau choisi, aux éditions Michel Lafon.
Entre deux, sur la brèche. Entre deux mondes, hier et demain, chaque seconde compte. Compteur en marche, gare à la débarque, fleuve impétueux, eau tumultueuse. T'as tant accumulé d'eau dans le court courant du temps, tu fais déjà d'eau passer, docile ou pas, t'es poussé vers l'avant-scène du présent. T'en es là, avance tout droit, un pas à la fois, riche de leçons, des rançons, des poinçons taraudés au cœur et au cerveau saturé, de sensations conséquentes aux réactions. Spectaculaire ou pas, gravé dans la bande-annonce de ton microfilm perso, toujours trop tard, rarement trop tôt, que tu prends le micro, décalé d'hier à demain déjà passé, sur la brèche de l'avenir incertain, scénario écrit en braille, nul ne saurait jurer du lendemain, main vide ou pleine, chacun sur la brèche coche friable du lendemain façonné pas fiable, pas capable de présumer que diable, si n'est pas ceux de ma démarche à moi ou la tienne, qui sait pourquoi, laquelle sera décisive, proche de l'appel du grand mouvement, du cœur d'un monde déjà passé ou encore à venir.
C'était un texte de Annie Schneider du nom de « Sur la brèche ».
C'est ce qui conclut le 153e épisode de Aube.
Coudon, Guillaume, en quelle année on est déjà?
Oups, je veux dire le 15e épisode de Aube.
Bon, si vous avez raté le début, vous pouvez utiliser la fabuleuse machine à remonter dans le temps qu'est l'Internet et télécharger nos émissions en balado.
Vous trouverez aussi sur notre page un lien pour lire et signer le manifeste « Un bond vers l'avant » dont on a discuté un peu plus tôt en début d'émission.
Profitez-en donc aussi pour nous laisser vos commentaires, vos suggestions et vos idées de reportage ou d'entrevue sur laplumedefeu.com.
Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à participer à celle-ci. Chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Guillaume Lambe, Philippe Laramé, Marie-Claude Journeau, Jean-Baptiste Gardarin, Aurélie Suberchico, Guillaume Touzelband et Annie Schneider.
À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lambe.